Nous avons terminé la dernière fois avec la captivité, ou plutôt le retour de la captivité et la restauration dans le pays de Canaan. Nous sommes à la page 11, n'est-ce pas? 11. Et lors de cette dernière fois, en parlant du retour de captivité, nous avons constaté qu'en fin de compte, il y avait 50 000 au début qui ont répondu à l'appel ou qui se sont donnés pour rentrer dans leur pays d'origine. Et nous avons aussi constaté que cette restauration n'a pas porté le rétablissement du règne davidique, c'est-à-dire ce roi futur qui devait bénir le peuple. Mais au moins, cette restauration dans le pays a planté le décor pour que cet espoir se réalise. Donc, il va se passer. Pas tout de suite, mais elle va se passer. Bon, avant d'arriver au temps d'accomplissement qui est justement l'étude d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les prophètes que vous avez là, les textes devant vous. C'était une grande période de prophètes qui a débuté vers l'an 800 et qui a continué jusque dans l'année ou aux alentours de 450 ans avant Jésus-Christ. Il y avait des prophètes avant, il y avait des prophètes après, mais la grande période de prophètes était entre ces années-là. Et contrairement au sens du mot prophète en français, là j'aimerais bien définir un peu ce que c'est un prophète, contrairement à ce que nous avons la tendance de comprendre par ce mot prophète en français, la mission de ces hommes et leur successeur consistait pas simplement à lire, consistait pas simplement à lire ou prédire le futur. Ce n'était pas leur but. Il ne faut surtout pas les confondre avec les devins de l'Antiquité ou dans nos temps modernes avec les voyants, les astrologues et toute la compagnie de ces personnes-là. Mais le prophète de Dieu, qui était-il? C'était un homme qui recevait un message directement de Dieu. Et c'est bien un message qu'il a reçu, quelque chose qu'il devait communiquer. Il était, un autre terme qu'on entend souvent, le porte-parole de Dieu. Et avait, lui, pour mission d'injecter la parole divine dans l'histoire d'Israël afin d'orienter cette histoire vers son but. Donc il y avait une raison d'être de cet homme-là. Et en effet, il y avait deux mots, à mon avis, qui résumaient bien le travail d'un prophète, c'était les mots préparer et maintenir. Le prophète, il préparait le peuple pour les événements à suivre et les a maintenus, si vous voulez, dans leur fidélité à Dieu pour que ces événements arrivent au temps voulu. Donc c'était très important son travail. Bon, l'apôtre Pierre a expliqué cette mission des prophètes dans une de ses lettres, c'est 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Au sujet de ce salut, les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu allait vous faire. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit qui était en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qu'il les suivrait. Dieu révélera aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Et selon Pierre, les prophètes ont annoncé deux aspects distincts du dessein de Dieu par rapport au Messie, sa gloire et ses souffrances. Autrement dit, sa majesté royale et sa mort rédemptrice. Ou comme nous avons dit la dernière fois, lors de la première séance, la rédemption et le règne de Christ. Donc il y a tous ces termes qui sont synonymes. J'aimerais qu'on regarde maintenant quelques textes prophétiques qui annoncent d'abord l'avènement du roi davidique glorieux et universel, et éternel, pardon. D'abord, Ézéchiel. C'est chapitre 37, Ézéchiel était prophète aux alentours de 586 et un peu plus tard, avant Jésus-Christ. Israélites, je vous retirerai du milieu des peuples où vous êtes allés, donc le retour de captivité dont on a parlé la dernière fois. Je vous rassemblerai et vous ramènerez dans votre patrie. Là, je vous réunirai et vous formerez un seul peuple sur les montagnes d'Israël. Un seul roi règnera sur vous. La division entre deux peuples et en deux royaumes n'existera plus. Mon serviteur David sera votre roi. Il sera pour vous le seul berger. Mon serviteur David règnera sur vous pour toujours. Et puis, un peu plus tard, c'est le prophète, ou avant même, Ésaïe, en chapitre 9, 750 ans avant Jésus-Christ, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu l'a chargé d'exercer l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix, et la mission d'étendre son autorité et d'assurer une paix sans fin. Il s'occupera le siège royal de David et règnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Donc, les annonces de règne davidique. Bon, il y a cet aspect royal, cet aspect glorieux de ce roi qui va venir. Mais ce roi libérateur aussi, chez les prophètes, a un côté, j'appelle, humble, un aspect humble. Car c'est par le mystère de sa propre souffrance que ce roi réalisera la libération du peuple, c'est-à-dire la liberté de l'esclavage au péché, dont on a parlé la dernière fois. Et cette conception humble et souffrante du Messie est attesté surtout dans les oracles d'Ésaïe, Ésaïe 53, que vous connaissez bien, on va lire dans un moment un petit texte, qui est cité aussi par le Nouveau Testament comme accompli en Jésus-Christ. Mais on appelle cet oracle ici, un chapitre 53, il y en a en effet 4 ou 5 chapitres qui sont appelés les poèmes du serviteur souffrant. Et on se demande qui est ce serviteur souffrant dont Ésaïe a parlé. Bon, quand Philippe l'explique à l'eunuque, il explique que c'est le Christ. Ésaïe 53, 1 à 10. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait la maladie qui aurait dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur a prouvé son serviteur accablé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Et là, il m'est difficile de trouver un passage qui est plus clair dans l'Ancien Testament, 750 ans avant Jésus-Christ, qui donne tous les détails de ce que Jésus a fait. Mais ce qui est intéressant dans ce texte que nous venons de lire, c'est qu'en termes imagés, ce serviteur cruellement humilié ce serviteur cruellement humilié, une exaltation incomparable. Il soit exalté. Il a cette exaltation. Ressuscité, il connaît un triomphe posthume. Lui qui vaut une gloire sans égale. Et donc ce retournement de la situation, apparemment la destruction, la fin des choses devient la gloire et la grande bénédiction est d'une importance capitale dans le plan de Dieu pour l'avenir. Et la dernière phrase dit, c'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. La paix avec Dieu et le pardon sont donc les biens messianiques. Par excellence, c'est-à-dire la paix et le pardon sont des avantages apportés aux hommes par le règne du Messie. Bon, le prophète Michée, que nous avons étudié dans ce séminaire il y a un an, aussi a écrit à peu près 750 ans avant Jésus-Christ, et voilà ce qu'il dit. Il y a aussi beaucoup de détails. Mais Michée 5, 1 et 4. « Et toi, Bethléem, Éphrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. C'est lui qui amènera la paix. » Bon, par le prophète Jérémie, à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, Dieu a annoncé, chapitre 31, « Je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. En effet, je pardonnerai leur tort et je ne me souviendrai plus de leur faute. » Et puis le prophète Zacharie montre ce roi universel faisant modestement son entrée dans la ville sainte. Qu'est-ce qui va faire cet homme? Zacharie 9, 9 et 10. « Éclate de joie, Jérusalem, pousse des acclamations, ville de Sion. » Regarde, ton roi vient à toi juste et victorieux, humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Ça nous fait rappeler l'entrée triomphale de Jésus. Et puis chapitre 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonté, de bonne volonté et de supplication. Alors, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui comme pour le Fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. Donc, nous avons ici en Zacharie un mystérieux personnage transpercé, mais qui, par cet acte d'être transpercé, porte la purification des péchés. C'est le fruit de son acte. Bon, c'est sur une vision lumineuse d'un règne davidique universel, porteur de paix et de pardon, que se termine l'Ancien Testament. En effet, ce n'est pas la fin. Il y a quand même encore une prophétie. C'est Michée. Ou Malachie, pardon, le dernier prophète, ou dans l'avant-dernier verset de sa dernière prophétie, dit ceci. Et c'est une annonce qui est très importante pour le règne messianique, Malachie 3, 23. « Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais envoyer le prophète Élie. »
Avec ces paroles prend fin l'Ancien Testament, avec ces paroles et le verset qui le suit, il y a, pendant ces périodes, entre les deux testaments, 400 ans, 4 siècles, où Dieu ne dit rien à son peuple. On compte généralement cette période entre 425 et 5 avant Jésus-Christ, donc 4 siècles en gros. Et pendant cette période, qu'on appelle intertestamentaire, parce qu'entre les deux testaments, l'histoire du peuple juif est intimement liée à l'histoire des grands empires de l'époque. En 333, Alexandre le Grand écrase les armées de la Perse et il prend le pouvoir, mettons, du monde entier. Et Israël, par le même fait, passe sous la domination des Grecs. Mais Alexandre ne vit pas longtemps, il meurt 10 ans plus tard, et son royaume est divisé entre ses généraux. Mais ses généraux ne s'aiment pas tellement beaucoup, et ils deviennent vite rivaux. Alors le grand royaume d'Alexandre est divisé en deux autres royaumes, généralement deux, on peut compter deux. Et ces deux royaumes sont le royaume des Ptolémées, ça dépend de qui on consulte. Ça, c'est le royaume de l'Égypte. Et Israël passe dans un premier temps sous la domination de ce royaume-là, dont le dernier représentant est Cléopâtre, que l'on connaît bien de l'histoire. En 201, les territoires d'Israël passent sous la domination de l'autre royaume, qui est le royaume du Nord, le royaume des Syriens, de la Syrie, aussi appelé les Séleucides. Pendant cette période entre les deux testaments, il y a le fait de l'hellénisation des mondes méditerranéens, c'est-à-dire l'influence grecque dans toutes les institutions, la religion, même dans la manière de vivre. Et c'est surtout contre cette hellénisation, dans le domaine de religieux surtout, que les Juifs se rebellent. Et c'est pendant le règne du tristement célèbre Antiochus Épiphane, Antiochus IV, ce qui est un roi séleucide, que les hostilités vraiment éclatent. Parce que ce roi très malin et très méchant vient à Jérusalem et il ravage la ville, il tue un tas de ses habitants, il met fin à la circoncision et au sacrifice, il profane le temple en mettant dans le temple même de Jérusalem un autel à un dieu païen. Et sur cet autel, il sacrifie un porc exprès pour enflammer la colère du peuple juif. Cette action avait été prédite par Daniel dans sa prophétie du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ceci vient à accomplissement en 168 avant Jésus-Christ. Alors quand il fait ceci, le peuple orthodoxe, le peuple fidèle qui essaye de respecter la loi de Moïse, se révolte. Et il est conduit principalement par une famille asmonienne, dite asmonienne parce que le père de cette famille s'appelait Asmon ou Asmon, et cette révolte est appelée la révolte des Maccabées. Ça n'est pas le nom de la famille qui l'a conduit, conduite cette révolte, mais c'est un nom qui veut dire marteau, et qui vient sans doute du fait que la rébellion était très vigoureuse, et les coups qui étaient portés par les rebelles étaient très sérieux pour le pouvoir en place d'Antiochus Épiphane, pour les Séleucides. Cette révolte a réussi à gagner l'indépendance de la Judée en 142 avant Jésus-Christ, et ceci a duré jusqu'à 43 avant Jésus-Christ. Cette dynastie asmonienne a eu, elle aussi, une assez triste histoire en ce qui concerne les règnes de tel ou tel roi. En 63, deux de ses frères asmoniens, qui se disputaient le pouvoir en Judée, ont décidé d'appeler en arbitrage un général romain qui s'appelait, que vous connaissez, Pompée. Et c'était la grande erreur, parce qu'une fois que Pompée avait reçu l'arbitrage de cette chose, de cette région, eh bien, la Judée est devenue un satellite tributaire de Rome. Et il passe donc sous la domination de l'Empire romain. En 37, Marc-Antoine, compagnon de Jules César, confie l'administration du pays à Hérode le Grand, qui deviendra aussi tristement célèbre, notamment par le massacre des innocents de Jérusalem au moment de la naissance du Christ, ou peu après. Alors c'est à peu près à la fin du règne de ce grand Hérode, que les évangiles s'ouvrent avec la naissance du Christ et tout ce qui va suivre, après donc une période de quatre siècles. Et pendant ces quatre siècles de domination étrangère et d'espoir déçu, l'attente messianique du peuple a été attisée. Elle devient de plus en plus forte. Elle se fait sentir avec une intensité particulière à l'époque de l'occupation romaine, au point où Luc peut le dire, vous avez ce passage dans vos livrets, Luc 3,15, le peuple attendait plein d'espoir. Cette fièvre messianique doit au moins en partie sa force à la prophétie de Daniel, qui avait été faite donc 6 siècles auparavant. Pendant le temps du roi Nebuchadnezzar, Daniel avait reçu la prophétie dont nous avons parlé la dernière fois, et qui donnait la liste de la succession des nations en partant de Babylone. Babylone perd les Médo-Perses, la Grèce, et puis Rome. Et ceci avait été bien défini dans la vision de Daniel. Et dans cette vision, en parlant des empereurs romains, qui étaient les chefs donc de cette dernière nation, de cette dernière puissance, Daniel avait dit, Daniel 2, 44, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement. » Le peuple connaissait ces prophéties. Les rabbins enseignaient au peuple ces prophéties. Ils savaient bien qu'ils vivaient à l'époque du quatrième royaume, donc ils attendaient à ce que cette vision s'accomplisse. D'autant plus que nous avons dans cette prophétie une indication chronologique de premier ordre. Parce que c'est bien dit que c'est à l'époque de Rome que Dieu établira son royaume, il balayera tous les autres royaumes dans le monde méditerranéen, et il enverra son Messie qui paraîtra pour établir son règne universel.
Bon, maintenant nous sommes arrivés au temps d'accomplissement, là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et j'aimerais commencer par parler un peu de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est? Le mot même veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de quoi? Bon, on va voir. C'est quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Cette bonne nouvelle proclamée dans les quatre évangiles et dans tout le Nouveau Testament annonce que l'heure de l'accomplissement a sonné. Voilà la bonne nouvelle. Rome est en place, les prophéties, comme Charles a dit, ont tout montré, et donc voilà, maintenant le moment est arrivé. Donc dans la personne de Jésus de Nazareth, enfin est apparu le Messie tellement attendu. Il est descendant d'Abraham, en qui se réalisera la promesse d'une bénédiction universelle, une bénédiction comme a dit Dieu à Abraham en Genèse chapitre 12 et chapitre 22, une bénédiction sur toutes les nations de la terre. Jésus est l'héritier légitime du trône de David, ce trône qui est resté, on peut dire, vide pendant tout le temps de la captivité, la restauration et puis entre les testaments. Il vient dans le monde pour révéler et exécuter le double dessein de Dieu, c'est-à-dire obtenir le pardon ou la rédemption des hommes en les délivrant du péché et de la mort et entrer dans son règne messianique où il doit exercer sur tout Israël et sur le monde entier. Encore donc ces deux thèmes que nous avons mentionnés plusieurs fois, la rédemption et le règne. Bon, lisons en guise d'introduction quelques textes qui expriment bien l'ambiance d'une attente enfin comblée dans laquelle baigne le tout Nouveau Testament. D'abord Marc chapitre 1, 14 et 15. Et c'est Jean-Baptiste qui prêche. Okay? Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, non pas tel ou tel temps, mais le temps est arrivé. Ou littéralement, le moment fixé, parce que c'est un mot grec qui est très très précis. Le moment fixé par Dieu ou le moment voulu par Dieu. Donc, celui qu'on désirait voir, mais n'ont pas vu les rois et les prophètes, il est là. Et c'est littéralement à ce moment-là que Dieu voulait qu'il vienne. C'est tout cela où le temps a été rempli, littéralement. Donc l'accomplissement du temps est déjà là. La période de préparation est arrivée à son terme. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps furent accomplis, encore ce même racine de mot grec, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, un être humain, né sous la loi. Donc, il serait un Israélite, quelqu'un de la famille d'Abraham. Hébreux chapitre 9, verset 26. Mais maintenant, à la fin des siècles, le Christ a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Là, la rédemption, encore. Bon, ces deux mots, mais maintenant, se retrouvent souvent dans le Nouveau Testament et servent à diviser l'histoire en deux parties. Il y a les siècles de préparation, que nous avons vus la dernière fois, qui prennent fin avec l'apparition du Christ, et puis l'âge messianique, l'ère dans laquelle nous vivons, nous, depuis presque 2000 ans maintenant. On appelle cela aussi, c'est pas, je n'avais pas pensé le dire, mais on appelle cela l'ère chrétienne. Nous sommes dans l'ère chrétienne qui prendra fin au retour de Christ, que nous verrons samedi prochain. 1 Pierre 1, verset 20, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bon, toute l'histoire de l'Ancien Testament aboutit ainsi à l'arrivée de Jésus-Christ qui accomplira le dessein que Dieu avait conçu avant la création du monde. Ça, c'est très important. C'était toujours dans l'esprit de Dieu de faire ce qu'il a fait pour l'exécuter au moment fixé, au moment voulu.
Au début du Nouveau Testament, la naissance de Jésus est annoncée, premièrement à Joseph et à Marie, mais dans deux contextes différents. À Joseph, l'ange qui est envoyé souligne le côté rédemption de la venue dans le monde de cet enfant. Et à Marie, l'ange Gabriel, parce qu'il est nommé dans le cas de Marie, l'ange Gabriel souligne le côté royal, le règne de cet enfant qui viendra dans le monde. Alors, l'ange qui vient à Joseph, qui est un charpentier juif, lui dit que sa fiancée Marie va mettre au monde un enfant conçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu 1, 21. « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous voyez, il met l'accent sur la rédemption que cet enfant apportera. Le nom Jésus est la forme grecque de l'hébreu « Josué » qui signifie effectivement « Dieu sauve » ou « Yahvé sauve ». Désormais, la libération de l'humanité est remise entre les mains de cet enfant. Seulement, les Juifs s'attendent à ce que cette libération soit politique et physique, mais l'ange et Dieu a autre chose dans l'esprit. À Marie, l'ange Gabriel insiste sur cette destinée royale en disant, Luc 1, 32, 33, « Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours. Son règne n'aura pas de fin, point de fin. » Et encore une fois, vous voyez le double sens de ce dessein de Dieu. On parle constamment de rédemption et de règne. Même dans l'annonce qui a été faite aux deux parents, cette différence est bien faite. L'évangile de Marc débute non par la naissance de Jésus, mais par le début du ministère de Jean, appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le mot Baptiste n'est pas son nom de famille et ça n'est pas non plus son deuxième prénom. Baptiste est simplement un titre qui indique ce qu'il fait cet homme, il baptise. On pourrait l'appeler Jean le baptiseur ou on pourrait l'appeler, comme le fait même une traduction, Jean l'immergeur. Jean est l'accomplissement et ceci est extrêmement important pour la suite de sa mission. Jean est l'accomplissement de la prophétie dont Arlen nous a parlé tout à l'heure, de Malachie 3, 23, où Dieu dit, avant le jour grand et redoutable du Seigneur, je vous enverrai le prophète Élie. Jean est l'accomplissement de cette prophétie. Il a pour mission de préparer le peuple juif à la venue du Messie et à la venue imminente de ce Messie. Comment est-ce que nous savons que Jean est effectivement l'accomplissement de cette prophétie au sujet d'Élie? Bon, d'abord, Luc 1, 17 dit, c'est Gabriel qui parle au père de Jean-Baptiste, avant la naissance de ce garçon, il s'avancera lui-même devant Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Mais Jésus est encore plus spécifique. Il dit dans Matthieu 11, verset 14, si vous voulez me croire, Jean et cet Élie dont la venue a été annoncée, ou qui devait venir, ça dépend des traductions. Et dans Matthieu 17, 12, Élie est déjà venu, les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et Matthieu d'ajouter dans le verset suivant que les disciples comprenaient qu'il parlait de Jean-Baptiste. Mais le verset qui est le plus clair, c'est le passage de Matthieu 11, 14, où Jésus dit, Jean est cet Élie qui devait venir ou dont la venue était annoncée.
Donc vers l'an 28 à peu près, on ne sait pas exactement la date parce que les calendriers que nous avons aujourd'hui ont été faits, il y a une erreur de date, mais vers l'an 28 de notre ère, après avoir vécu longtemps dans le désert, Jean, dont Charles parlait, il arrive et il reçoit de Dieu l'ordre de donner le coup d'envoi à la révélation de l'Évangile. Et sa mission consiste à baptiser les Juifs et les préparer pour l'avènement imminent du temps messianique, la venue plutôt. Matthieu 3, verset 2, par exemple, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ce mot « proche » revient souvent dans les paroles de Jean, mais aussi dans les paroles de Jésus. « Le royaume de Dieu est proche. » Dans les évangiles, l'expression « le royaume des cieux » est synonyme du « royaume de Dieu » et ne désigne pas le ciel. Ce n'est pas ça, mais un règne universel et porteur de rédemption que le Messie davidique doit exercer sur Israël et sur le monde. Jean proclame au peuple que le règne du Messie est proche, que Dieu est sur le point de remettre l'histoire souveraine à un descendant de David, ce descendant qui manquait sur le trône, comme il avait promis de le faire par la bouche de tous ses prophètes. Donc l'imminence du moment fixé explique l'urgence de la conversion. Il faut se convertir. Donc Jean crie, je ne sais pas si vous avez vu le film... je crois que c'est le roi des rois ou quelque chose comme ça, où c'est Charlton Heston qui crie « Repentez-vous !» crie à fort, voix fort « Repentez-vous !» Mais c'est ça que Jean a fait, en effet. « Repentez-vous !» Il y a une urgence à cela. Mais le verbe grec « se repentir » signifie littéralement « changer de mentalité »,« changer de façon de penser ». Il s'agit plus précisément de se retourner vers Dieu, pour s'ouvrir à sa pensée, à sa volonté, ou, comme on dit couramment, pour se mettre sur la même hauteur d'onde que Dieu, penser comme lui. Sinon, il risquait les Juifs de passer à côté du règne et de rater les conséquences, ou les promesses, pardon, que Dieu avait fait à leur père. Ils allaient les manquer. Bon, en plus de la conversion, Jean témoignait de la présence au milieu du peuple juif de celui qui révélera et mènera à bien le dessein divin du salut. En Jean chapitre 1, verset 29, il crie, Jean vit Jésus venu à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte ou qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cette déclaration se réfère d'abord au personnage du serviteur souffrant dont on a lu la prophétie en Ésaïe 53. Quelqu'un qui va souffrir, un agneau qui souffre, qui est mené à l'abattoir, comme a dit Ésaïe. Deuxièmement, cette déclaration, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, se réfère à cet agneau pascal dont on a parlé la dernière fois quand on a défini ce que c'était la Pâque juive. Comme ils devaient sacrifier un agneau sans faute, sans tâche. Donc il s'agit d'une ultime prophétie mystérieuse sur la destinée de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce Jésus, cet agneau, il va mourir. Une prophétie que seul l'avenir éclairera ou expliquera. Il est d'ailleurs certain que Jean-Baptiste lui-même n'a perçu qu'imparfaitement la portée des paroles qu'il prononçait. Il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il disait ou ce qui allait se passer. Il ne savait pas quel était le dessein de Dieu, lui, en toute sa forme. Mais il savait que Dieu allait le révéler par celui qui devait venir. Donc, le ministère de Jean sert en quelque sorte de transition entre le temps de préparation et le temps d'accomplissement. Il est le trait d'union, si vous voulez. En Luc chapitre 16, verset 16, « Le temps de la loi de Moïse et les livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. » On ne peut pas être plus clair. pour expliquer cela. Donc, quelle est donc cette bonne nouvelle du royaume à laquelle doivent croire les Juifs en l'an 28? Quelle est la bonne nouvelle? Le règne du Messie arrive. Il faut, par le demi-tour de la conversion, se mettre en marche pour aller à sa rencontre. Il faut être pas seulement prêt, mais il faut aller la chercher. Il est là, il est près de nous. La prédication de Jean provoque donc une vague d'agitation messianique en Israël. Il y avait des centaines de personnes, sinon des milliers, qui sont venus le chercher pour se faire baptiser par lui. Et aussi, selon ses ordres, pratiquer les œuvres dignes de repentance. Donc, tous ces gens étaient là et on ne se demandait plus que jamais quand viendra le règne et par quel chemin on va le voir apparaître.
Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus, à quelques exceptions près, peut-être pour ceux qui le connaissent le mieux, est un garçon et un homme comme tout le monde, comme tous les autres garçons, comme tous les autres hommes juifs. Il fait l'école rabbinique de son village et il apprend le métier de charpentier, comme son père. Mais à l'âge de 30 ans, il quitte son atelier de charpentier, il s'engage dans un ministère de prédicateur itinérant. Et nous avons une description de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait dans Matthieu 9, 35. Jésus passait par toutes les villes et tous les villages, il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Et sa prédication avait un seul et unique thème, un thème qui rappelait beaucoup ce que Jean-Baptiste avait dit avant lui. Marc 1, 14 et 15, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, et il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il est important, encore une fois, de souligner cette annonce que le royaume de Dieu est proche. C'était le thème de la prédication de Jésus-Christ, et c'était la proximité de ce règne du Messie qui devait venir, qui inspirait sa prédication, et c'est ce qu'il fallait que les gens de l'époque comprennent, c'est ce qu'il faut que nous comprenions au sujet des enseignements de Jésus, pour bien comprendre la profondeur de ses enseignements et les principes qu'il a donnés. Quand il a adressé à la foule, Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne, il était en train de définir et d'illustrer les principes de la nouvelle alliance. Pas des nouveaux principes, dans le sens que Jésus n'a fait que prendre les mêmes principes qui avaient été donnés dans la première alliance et les approfondir. Il était en train de donner au peuple les règles par lesquelles il devait vivre. S'il voulait entrer dans ce règne, s'il voulait entrer dans le règne messianique, un peu comme Moïse quand il a fait sortir le peuple d'Égypte, il leur a d'abord donné la loi avant de les conduire vers la terre promise. Jésus a donné une sorte de loi, une liste de règles et de principes qu'il voulait que son peuple apprenne afin de mieux accueillir son règne. Quand il leur a raconté les paraboles, selon ce que les auditeurs pouvaient comprendre, selon Marc 4, 33, c'était pour les amener à discerner l'approche de ce règne et à comprendre comment ils devaient l'accueillir. Matthieu 13, 34, 35. Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans paraboles, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire les paraboles. Je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Voilà également le sens profond des guérisons et des expulsions de démons, et d'une manière générale de tous les miracles de Jésus. Ça n'était pas simplement une expression de sa compassion, c'était des signes. C'était des signes annonciateurs, c'était des panneaux indicateurs du règne imminent. Luc 11, 20, en réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Donc lorsque Jésus guérit les malades, ou délivre les possédés, ou ressuscite les morts, ou multiplie les pains, il exprime en acte le même message qu'il exprimait déjà dans sa parole, dans ses paraboles. Il fait comprendre que le règne du Messie est proche, et même qu'il est déjà en train de parvenir aux hommes.
Bon, vous pouvez imaginer bien ce que les Juifs pensaient qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de demander, mais ce prophète-là, cet homme-là, qui fait tant de miracles, est-ce possible qu'il soit le Christ? Est-ce que c'est possible qu'il soit le Messie que nous attendons? Matthieu 12, 23 par exemple. Toutes les foules étaient remplies d'étonnement et disaient, serait-il le fils de David? Vous voyez cette idée de règne qui même est venue dans cette question qu'ils ont posée. Jean 7, verset 31. Dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui. Il disait, quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait cet homme? Donc, il se pose des questions, mais on peut se poser aussi une question. Nous, qu'est-ce qui a fait hésiter les Juifs? Il le voit, il y a des centaines de personnes qui le suivent, il va dans les villes, il y a des endroits où il ne peut même pas se reposer. Il doit sortir de la ville pour trouver un peu de repos, pour prier, il n'a pas de temps pour manger. Mais qu'est-ce qui fait hésiter les Juifs? Bon, il est certainement son comportement déconcertant de Jésus lui-même. C'est-à-dire, il n'agissait pas comme il devait agir le Messie qu'ils attendaient. Bien que doué d'une force surnaturelle, il se contente de parcourir le pays en pauvre prédicateur itinérant, accompagné par une bande de 12 pecno galiléens. Et j'aime bien ce mot pecno, je cherche dans le dictionnaire, c'est des personnes pas bien instruites, c'est un peu péjoratif. Mais en effet, comme vous considérez les procès que les apôtres ont eus devant le Sanhédrin, ils se rendaient compte qu'ils étaient des hommes non instruits. Mais ils ont été changés, comme nous savons par la suite. Bon. Quand va-t-il donc se proclamer roi? C'était là la question. S'il est vraiment le Messie, quand est-ce qu'il va se proclamer roi? Rassembler ses armées, partir s'emparer de la terre à force de militaires et aussi à coups de miracles, parce qu'ils aimeraient bien qu'en ayant-ils les Romains de coups de miracles. Bon, les Juifs, ils se heurtent à ce que les théologiens de nos jours appellent le secret messianique. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il se heurte à le caractère discret et modeste du ministère de Jésus et surtout son refus de revendiquer ouvertement le titre de Messie. Jésus, en effet, à ma connaissance, ne se déclare jamais publiquement être le Messie. Il ne dit pas, moi je suis le Messie, celui que vous attendez. Bon, au procès, n'est-ce pas? Ils ont posé la question, dis-nous, je crois qu'ils ont dit même, on vous injure, dis-nous si vous êtes le Christ, et vous le dites. Mais en public, il n'a jamais dit cela, revendiqué cela. Au contraire, il semble fuir toute occasion de se faire connaître en tant que roi. Nous avons l'exemple en Jean chapitre 6, 14 et 15, c'est tout de suite après avoir donner à manger miraculeusement à au moins 5000 personnes. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent, cet homme est vraiment le prophète. Et là, le prophète voulait dire le Messie, annoncé par Moïse en Genèse 18, 15, que nous n'avons pas lu la dernière fois. Mais cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus se rendait compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline tout seul. Et ça s'est passé plusieurs fois comme cela. Cette fois-là, il est allé seul sur la montagne et il a prié jusqu'au soir. Mais même les frères de Jésus, dont nous avons les noms, Jacques, Joseph, Jude et Simon, trouvent incompréhensible la semi-clandestinité dans laquelle il semble se complaire, c'est-à-dire le fait que Jésus ne manifestait pas ouvertement tout le temps et avec une volonté de le faire. En Jean chapitre 7, versets 4 et 5, là les frères parlent avec Jésus. Personne ne cache ce qu'il fait s'il désire être reconnu. Puisque tu accomplis de telles œuvres, agis en sorte que tout le monde te voit. Et puis l'apôtre Jean fait le petit commentaire verset 5, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Bon, par la suite, nous apprenons qu'ils sont arrivés à croire, mais pas pendant quelques mois en moins. Bon, ce n'est pas que Jésus ne donne aucune indication qu'il est le Messie, parce qu'il en donne des indications. Au contraire, il manifeste bien son messianisme, mais par des procédés indirects. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il revendique pour lui-même les prérogatives qui, en principe, n'appartiennent qu'à Dieu. Par exemple, cela a provoqué pas mal de réactions parmi les chefs du peuple. En Marc chapitre 2, verset 10, « Je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Oh » Il dit cela, et ceux qui écoutaient sont étonnés, sont choqués même, blasphèment. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais il n'a pas dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Je vous pardonne », c'est tout. Matthieu 28, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Mais qui est le maître du sabbat? Dieu. Jean 8, versets 56 et 58, et peut-être là, ça a dû provoquer des choses, en effet, ça a provoqué pas mal de choses. Abraham, votre père, s'est réjoui en pensant qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu, et on était heureux. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis.
De la même manière, les miracles que Jésus dit témoignent du fait qu'il est le Messie qui devait venir. Dans le passage que vous avez dans Jean 10, 24, 25, les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus lui répondit, « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas les œuvres que je fais avec l'autorité de mon Père, parle en ma faveur. » Jésus a surtout exaspéré les chefs spirituels en Israël de l'époque, les pharisiens, les sadduciens, les prêtres, les anciens, les maîtres de la loi, parce qu'ils voyaient en lui surtout une menace, enfin, d'abord une menace pour les institutions religieuses du pays, mais surtout, avant cela même, une menace pour leur propre autorité sur le peuple. Ils se voyaient réduits en puissance devant le peuple, à côté de cet homme qui prenait de plus en plus de popularité, non seulement à cause de ses enseignements, mais aussi par les miracles qu'il faisait. Alors, pour les grands, les chefs de l'époque, Jésus était quelqu'un qui subvertissait la religion établie, qui entraînait les gens dans son groupe, dans sa secte, et il représentait donc un danger public. C'était un danger public, et qu'est-ce qu'on fait avec des dangers publics? Eh bien, on essaie de les éliminer. Jean 11, 47, 48 et 53, les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent alors le conseil supérieur et dirent, qu'allons-nous faire car cet homme accomplit beaucoup de miracles? Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. Dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de le faire mourir. La discrétion dont Jésus fait preuve quant à sa messianité et ce secret messianique dont Arlin nous a parlé, prend fin. Vers la fin de son ministère, il est prêt à être plus ouvert à ce sujet. Et aussi comme Arlin nous en a parlé, quand il est arrêté pour blasphème et quand il est traduit devant ce conseil supérieur, le Sanhédrin du peuple juif, il déclarera ouvertement et sous serment devant le conseil supérieur qu'il est le Christ. Et en faisant cela, il signe son arrêt de mort, bien évidemment. Marc 14, 61 à 64, le grand prêtre l'interrogea de nouveau, « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu, auquel vont nos louanges ?» Dans Matthieu, ceci, c'est dans Marc, c'est dans Matthieu 26 qu'il dit à Jésus, « Je t'adjure devant Dieu vivant. » C'est-à-dire, tu vas nous dire ce qui est vrai parce que tu es sous serment. Ce que tu dis pourra être tenu contre toi. Donc il pose la question, je t'adjure, donc es-tu le Messie? Es-tu le Messie, le Fils de Dieu auquel vont nos louanges? Et ça c'est une question qu'on répond par oui ou non. Es-tu oui ou non le Messie? Jésus répondit, oui je le suis. Ou d'autres traductions disent, tu l'as dit. Donc c'est très clair. Oui je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Nous n'avons plus besoin de témoins, vous l'avez entendu parler contre Dieu, qu'en pensez-vous ? » Tous le déclarèrent coupable et dirent qu'il devait être mis à mort.
Moi, en tant qu'envoyé de Dieu, ou envoyé divin, Jésus avait reçu la mission de révéler et de réaliser le dessein de son Père en faveur des hommes, pour la rédemption du règne. Mais si nous essayons de découvrir quel est ce dessein en nous limitant au ministère public du Christ, nous sommes forcés d'admettre que nous restons sur notre fin. Il y a encore des choses à être révélées. Même ses contemporains juifs se montraient impatients et le pressaient d'énoncer clairement son programme messianique. Et Jésus aura beau se tuer à faire discours et sermons, il aura beau enseigner des principes spirituels et prononcer les paraboles par milliers, pour milliers les doctrines pour remplir une centaine de Bibles. Et il aura beau multiplier guérisons et miracles jusqu'à ce que la terre redevienne un paradis. Il ne nous aura pas pour autant apporté le secret divin que Dieu l'a envoyé dévoiler. Et c'est que la révélation du dessein de Dieu ne devait s'accomplir qu'à la fin de son vie. C'est ce que Charles a dit, parce que c'est vers la fin que ça devient plus évident, que maintenant c'est dévoilé devant tout le monde. Ce que l'apôtre Jean appelle son heure. Dans l'évangile de Jean s'y dit souvent, son heure n'était pas encore venue. Mais ce n'est qu'à la fin qu'enfin Jésus lui-même dit, ou Jean l'explique par un commentaire, son heure était venue, mon heure est venue, l'heure est venue. Donc l'heure du Messie. Et là il s'agit, cette heure, du triple événement de sa mort, sa résurrection et son ascension. Parce que c'est là que la révélation va être complète, complétée. C'est là que le Messie réalisera notre rédemption et entrera dans son règne. C'est là qu'il nous fera connaître le destiné que le peuple ou que le Père nous a préparé. Et donc Jésus annonce à ses apôtres juste avant son arrestation. Voilà ce qu'il dit. Jean 16, verset 25. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Donc c'est encore un peu dans le futur ici. Donc là, il le dit la nuit de son arrestation. Bon, que nous dévoile donc Jésus à la fin de sa vie dans ces trois événements qui constitueront le cœur même de la foi chrétienne? Bon, nous le verrons dans la prochaine séance, quand nous allons commencer par parler de sa mort sur la croix. Bon, on s'arrête là. Est-ce que peut-être vous avez des questions ou des choses à demander avant de faire une petite pause?
Que signifie Élie?
Élie. Le nom Élie ou...
Élie.
Ah, je ne sais pas.
Le nom Élie, je ne sais pas.
Il faut que je cherche. Tu l'essaies?
Non. Non.
Sûrement ça a une signification parce que tous les noms avaient des significations, mais par rapport au dessin, je ne sais pas.
Mais le vocable Élie veut dire mon Dieu dans l'hébreu, mais je ne sais pas si le mot d'Élie a un rapport avec ça. Quand Jésus dit Élie, Élie, lama sabachthani, c'est dans l'hébreu mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le mot d'Élie exactement veut dire mon Dieu? Je ne sais pas. Le pronom, enfin le prénom.
Melchizedek,
oui.
C'est un personnage extrêmement étrange, on ne sait rien de lui. Non. Et Élie, c'est pareil. Élie, est-ce qu'il a eu aussi
on a
quand même des choses sur Élie. On a tous des passages, plusieurs passages dans les livres des rois, n'est-ce pas, des chroniques sur Élie. Élie était un grand prophète, mais il n'était pas tellement mystérieux. Hein. Une chose quand même, il est un de ceux qui a été enlevé au ciel sans passer par la mort.
D'autres? Eh bien, si on prend jusqu'à 4-5, et puis on recommence à 4-5, donc ça veut dire être là à 4-4, ok. Merci.